Jean-Gilbert, aux amis, Francine, Immacula. Bonjour, bonjour, bonjour. Florie, Louis, bonjour. Tati, Vivi, bonjour. Natacha, Indirène et petite famille, bonjour. Nous sommes le mercredi 23 mars. Pastor David, God bless. Good day to you. Know that we can say good day to you in English, but in French, it's not the appropriate greeting. It would be just a translation directly from English to French. So bon matin is not correct in English. Bonjour Gilles. Bonjour Marie-André. Bonjour Farley. Alors, un mercredi 23 mars qui débute sous le soleil, un peu frais, mais sous le soleil malgré tout. Pascal, bonjour. En route vers le bureau, certainement. Soyez prudente sur la route. Bonjour Rosie, que Dieu vous bénisse. J'ai vu votre plat de pissenlit l'autre jour. Ça semblait alléchant. Faut aimer le pissenlit, c'est un peu amer. Mais c'est un goût qui se développe, je crois. De mon grand-père paternel, j'ai adopté le radicchio. Salade avec quelques lardons sautés, c'est très agréable aussi. Que Dios me la bendiga, hermana Gladys. Oh, comme ça doit être agréable assis sur la terrasse à l'extérieur. J'ai essayé une publication l'année dernière, ou il y a 2 ans, à l'extérieur. Mais vraiment, c'est pas bon pour le micro, pour le son, vraiment trop compliqué. Sinon, l'été, j'aurais aimé pouvoir faire effectivement la diffusion depuis la cour arrière, mais vraiment trop de bruit, surtout avec les travaux. Et j'ai une quincaillerie assez importante, pas tellement loin de la maison, donc les camions qui reculent, qui passent constamment avec les bip-bip à droite et à gauche, donc ça ne sera pas possible malheureusement de diffuser depuis dehors. Bonjour Guy, que Dieu te bénisse. David Kirouac, bonjour. J'ai pas encore vu ma mère et mon père connectés. Donc je suppose qu'ils prendront vos salutations très bientôt, Rosie. La belle-mère, bonjour. Ah, voilà mon père. Donc ils sont connectés. Bonjour à mon père et à ma mère. Bonjour Rachel, bonjour aux sœurs qui sont connectées avec toi, la sœur Mona, la sœur Chantal, la sœur Auxilia. Bonjour Thérèse. Alors, deux rendez-vous aujourd'hui avec notre étude biblique ce soir à 19h. Ça fait un bon complément à la journée. Et ceux qui voudraient venir à l'église aujourd'hui, vous vous rappelez qu'il n'y a pas d'inscription nécessaire le mercredi ni le dimanche maintenant. Seule restriction, c'est la question du masque. On espère qu'il tombera bientôt. Même si on voit ces derniers jours une recrudescence des cas de COVID, c'est un peu inquiétant, j'admets. Alors, rebonjour à ma mère. Bonjour Sylvia. Happy to have you with us this morning. God bless. Alors, 8h26, il y a encore un peu de temps pour aller chercher votre café. Maggie, bonjour. Bonjour à Eduardo aussi. Marie-Huguette, bonjour. Claude, bonjour. J'étais content de voir mon ami Marcus dimanche. En fait, il y avait plusieurs enfants que je n'avais pas vus depuis 2 ans maintenant. Donc ça faisait plaisir, mais j'ai eu ma petite conversation avec mon ami Marcus dimanche et j'en étais très heureux. Alors aujourd'hui, on continue notre étude toujours dans le passage de Jean 11, duquel on a tiré le verset et le titre « Si Seigneur, si tu eusses été ici ». Mais on regarde de façon un peu plus particulière cette semaine les dangers de ne pas reconnaître la présence de Dieu autour de nous. On aura le temps de l'expliquer dans quelques minutes lorsqu'on va débuter officiellement. Bonjour Daniel, que Dieu te bénisse, content que tu sois là ce matin. Bonjour Max, bonjour Noémie, je prie pour vous. J'espère que vous allez bien, que vous tenez le coup. Soyez tous de bénis. Bonjour à la sœur Nathalie, qu'on retrouve sous le sobriquet Bovamos. Que Dieu te bénisse, ma sœur, ainsi que la petite famille, bien entendu. Denise Gérard, bonjour. Est-ce qu'il y a encore de la neige par chez vous? Moi, maintenant, il y a plus de vert et de jaune que de blanc. Le toit est totalement fondu, puis 90% de la pelouse est dépourvue de neige maintenant. Ce qui veut dire que le ménage de printemps va arriver. Alors, on va prier. Après ça, je vous explique comment on procède aujourd'hui. Alors, merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour cette occasion de plonger nos regards dans ta parole et d'être édifiés, mis au défi par elle et aussi transformés. Je prie, Seigneur, pour moi-même, mais je prie aussi pour tous nos bien-aimés qui se connectent aujourd'hui ou plus tard à cet enseignement. On demande, Seigneur, que tu ouvres notre entendement, notre compréhension, notre pensée. Nous ne voulons pas tout simplement prendre un temps qui résonne un peu comme une habitude ou une rengaine à être tous ensemble, mais simplement, ou plus profondément, Seigneur, que ce soit un temps enrichissant pour chacun d'entre nous. Un temps dans lequel, un moment dans lequel tu nous parles de façon individuelle, mais aussi collective, pour te laisser toute la place, pour te laisser intervenir comme il se doit dans nos vies, et assurément pour faire de nous les serviteurs et les servantes que tu désires que l'on soit. Alors, merci Seigneur d'être présent, merci de nous parler, merci de prendre soin de nous, merci de nous dire ce que nous avons besoin d'entendre. En toute chose, que toute la gloire, que tout l'honneur te reviennent aujourd'hui et dans toute l'éternité, nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors, le passage qu'on étudie cette semaine, toujours dans Jean 11, on a étudié du verset 1 au verset 45 tout au long des deux ou trois dernières semaines. Et cette semaine, on prend en particulier, ou plus précisément, on prend les différentes actions que Marthe va faire ou va poser, les différentes paroles qu'elle va prononcer lorsqu'elle va s'approcher de Jésus et tout au long de cette interaction entre elle et Jésus. On se rappelle que Marthe et Marie ont leur frère Lazare qui est décédé dans la ville de Béthanie ou dans le village de Béthanie, qui est environ à 2 jours de marche de Jérusalem. Et Jésus va se présenter là-bas en ayant reçu l'annonce de la maladie de Lazare et en ayant décidé de rester même 2 jours supplémentaires là où il était avant de se rendre vers Béthanie. Ce faisant, il arrive à Béthanie 4 jours après que Lazare soit décédé et y ait été mis dans une tombe. Et c'est à ce moment-là qu'il y a donc cet échange entre Marthe et Jésus, et qu'il y a aussi, puisqu'on connaît la fin de l'histoire, il y a aussi la résurrection de Lazare. Alors je lis pour vous à partir du verset 21, Jean 11, 21, et je vais lire jusqu'au verset 38. Je lis pour vous. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Jésus lui répondit Marthe qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu cela, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Il dit, « Où l'avez-vous mis ? » Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi, les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle ne pouvait-il pas aussi faire que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Alors que Dieu bénisse sa parole. Encore une fois, bienvenue à cette bénédiction matinale du mercredi 23 mars 2022 pour ceux qui se joignent à nous aujourd'hui. Pour les autres, bienvenue, peu importe la date à laquelle vous écoutez cette petite vidéo. Alors hier, lundi, on a expliqué la première partie ou la première intervention de Marthe auprès de Jésus avec cette phrase qu'on a eu l'occasion d'étudier pendant 2 semaines. « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et on a vu que très régulièrement, si nous ne sommes pas préparés d'avance, la tempête qui va fondre sur nous va nous éloigner de la parole de Dieu. Et ici, c'était un appel à un retour pour nous tous, aux bases même de la chrétienté. Ceux qui croient au Dieu de la Bible croient qu'il est le seul et l'unique, qu'il n'y en a aucun autre, que toutes les autres déités, divinités qui peuvent être offertes à l'homme ne sont que 2 choses, soit une malversation du diable et un mensonge du diable, soit l'imagination fertile de l'homme. En tant que croyants chrétiens, nous ne pouvons croire qu'il n'y a qu'un seul et unique et vrai et véritable et véridique Dieu qui s'est manifesté à travers la forme d'un homme, en prenant la forme d'un homme, Jésus, en venant sur terre et en payant le prix pour le péché de l'humanité. Et ce Jésus, avant d'être emporté vers le ciel, une fois ressuscité, va dire à ses disciples, « Alors je suis avec vous à tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce même Dieu, tant dans l'Ancien Testament, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui la Bible juive, la Bible judaïque, puisque les Juifs croient effectivement au Dieu de la Bible, mais en s'arrêtant à la fin de l'Ancien Testament, ils ne croyant pas que Jésus est le Messie et Dieu fait homme, vont aussi avoir ce même principe dans leur croyance, donc dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, cette croyance que Dieu est omniprésent. Il y a ce qu'on appelle des attributs de Dieu. Il est éternel, donc il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il a toujours existé. De surcroît à ça, un des attributs de Dieu, il nous le dit lui-même, Dieu est amour. Mais de surcroît à cela, il est aussi omniscient, omniprésent, donc omniscient qui sait toutes choses, qui connaît toutes choses, omniprésent qui est partout, en tout temps et en tout lieu. Lorsque je sombre ou lorsque j'abonde dans le même questionnement que Marthe en demandant ou en affirmant « Seigneur, tu n'étais pas au rendez-vous, tu n'étais pas là », je suis en train de remettre en question un attribut principal de Dieu qui est qu'il est omniprésent. Donc, à chaque fois que je ne suis pas ancré férocement sur la parole de Dieu, ce qui va se passer, c'est que lorsque la tempête va arriver, je vais m'en éloigner. Vous parlerez à quiconque a déjà traversé une tempête et il va dire que la première chose qui se passe, c'est qu'effectivement, ça vient remettre en question nos bases chrétiennes, nos bases de foi, nos croyances de base au niveau de la foi. Et si on n'est pas bien ancré, bien solidifié, si on n'a pas arrêté notre position avant que la tempête arrive, il y a effectivement le danger qu'on soit ballotté d'un endroit à un autre, d'une croyance à une autre, et qu'on s'éloigne forcément des principes bibliques. Donc, un des dangers à ne pas reconnaître la présence de Jésus, c'est que par conséquent, j'abandonne une facette importante de ses attributs et par la suite, je peux m'éloigner de l'ensemble de sa parole. On continue avec le verset 22. Marthe va dire ici, « Mais maintenant même, Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et on s'entend ici, lorsqu'elle parle d'une telle manière, c'est qu'elle vient de dire à Jésus, tu n'étais pas là. Mon frère est mort à cause de ton absence, mais maintenant, parce que tu es arrivé, assurément, tout ce que tu vas demander à Dieu, Dieu va te l'accorder. Qu'est-ce qu'elle veut que Jésus demande à Dieu? Qu'est-ce qu'elle veut que Jésus accorde? Ben, assurément, c'est la guérison ou la résurrection de son frère. Et le malheur ici, c'est que lorsqu'on voit toute l'histoire qui se déroule, Jésus va pleurer. Mais à quoi va-t-il pleurer? Pleure-t-il à la mort de Lazare? Assurément pas. Parce que avant de quitter pour se rendre jusqu'à Béthanie, dans sa conversation qu'il va avoir avec les disciples, et on voit cela dans le verset 4 notamment, du verset 4, disons, jusqu'au verset 15 ou 16 environ, il va expliquer à ses disciples que Lazare est mort, mais que lui doit se rendre jusqu'auprès de Lazare, jusqu'à la dépouille de Lazare, pour le réveiller, pour le ramener en vie. Donc Jésus sait très bien, et lorsqu'on reprend la prière même que Jésus va faire dans les versets 40 à 45, on se rend compte que Jésus est tout à fait au courant qu'il s'apprête à ressusciter Lazare. Alors lorsque Jésus pleure, il n'est pas en train de pleurer sur la situation de Lazare qui est mort, il pleure sur quoi? Il pleure sur les émotions que vivent à ce moment-là Marthe, Marie et les Juifs qui sont venus pour consoler les deux sœurs et qui sont eux aussi émus de la mort, de la mise en tombeau de leur ami Lazare. En fait, j'ai eu l'occasion de vous l'expliquer que pour moi, c'était une révélation jusqu'à un certain point, ou une illustration plutôt, de Jésus qui applique la parole même de Dieu. Plus tard, dans les Épîtres, Paul va nous exhorter « pleurer avec ceux qui pleurent ». Et ici, Jésus pleure effectivement avec Marthe et Marie. Alors pour nous, c'est déjà un encouragement de savoir que notre situation, nos malheurs, nos tristesses sont précieuses, comptent, sont importantes aux yeux de Dieu. Dieu se préoccupe de notre situation jusqu'à être ému de notre situation. Jésus aurait pu tout simplement faire fi des larmes de Marthe, de Marie et des Juifs et se dire, mais de toute manière, je vais le ressusciter. Donc, dans quelques instants, dans quelques minutes, dans quelques heures, vous allez arrêter de pleurer. Pour l'instant, c'est futile de pleurer puisque je sais ce que je m'apprête à faire. Non, la Bible nous dit que Jésus va être ému, que Jésus va trembler par rapport à ses larmes et que Jésus lui-même va verser des larmes. Est-ce qu'il était comme un pleureur que dans certaines traditions on avait et qu'on a parfois aussi encore dans certaines traditions des hommes, des femmes, la plupart du temps des femmes, qui sont payées par la famille endeuillée pour venir près de la dépouille et verser toutes les larmes qu'elles ont dans leur corps. Et la plupart du temps, c'est une dépouille, c'est un défunt que ces pleureurs ou ces pleureuses ne connaissent même pas. Mais elles sont payées pour faire semblant d'être émues et verser toutes les larmes de leur corps. Ce n'est pas ce que Jésus fait ici. La Bible nous dit que Jésus aimait Marthe, sa sœur Marie, et son frère Lazare. Et voir Marthe et Marie éprouvées par le deuil va pousser Jésus à pleurer. Mais à ce moment-là, Marthe s'approche de lui et lui dit, « Seigneur, je sais que maintenant que tu es arrivé, même si tu étais absent jusqu'à présent, maintenant tu es arrivé et tu peux demander à Dieu tout ce que tu désires et il te le donnera. » Foncièrement, Marthe est en train de dire à Jésus, « Répare le tort que tu as causé. Répare le tort que ton absence a causé. Donc fais ce que tu aurais dû faire, plutôt ressuscite Lazare. » Combien de fois on regarde le Seigneur davantage pour ce qu'il peut accomplir en notre faveur comment il peut répondre favorablement à nos demandes plutôt que de lui demander de faire ce qui est important. Et ici, dans la pensée de Jésus, ce qui était important n'était pas nécessairement la résurrection en soi. Le malheur ici, c'est que lorsque Marthe voit Jésus, elle voit l'occasion d'une résurrection, l'occasion d'une guérison, et elle préfère la résurrection et la guérison à celui qui donne résurrection et guérison. Je dis parfois qu'on regarde le Seigneur comme le grand médecin, mais on préfère la guérison que le médecin lui-même. Et Dieu ne partage pas sa gloire, pas même avec ses miracles. Si à un moment donné, le miracle de Dieu est plus important que Dieu lui-même, c'est une part chez nous. Ce que Marthe confesse ici, en ne reconnaissant pas la présence de Dieu qui peut venir combler son cœur, qui peut venir consoler son cœur, lorsqu'on ne reconnaît pas la présence de Dieu autour de nous, le grand danger, c'est que sa bénédiction devienne plus importante que lui qui est le bénisseur. Bénisseur, je ne sais pas si ça existe comme terme en français, mais on l'utilise malgré tout simplement pour que vous compreniez. Ici, Marthe est en train de dire, ce que je veux, c'est la guérison de mon frère ou la résurrection de mon frère. Alors, donne-moi ce que je veux. Et pourtant, Marthe est dans le malheur. Jésus se présente là-bas et devrait être la source de paix, la source de contentement, la source d'apaisement et de consolation pour Marthe. Et elle dit, la seule chose que je veux et que tu dois faire, c'est de me donner ce que je te demande, cette résurrection. En aucun moment, Marthe dit que ta volonté soit faite. En aucun moment, elle dit, Seigneur, je suis satisfait que tu sois simplement venu ici pour passer ce temps avec nous. Seigneur, je sais que tu m'aimes et ça me fait plaisir que tu sois là à mes côtés pour ce temps de consolation que j'ai besoin ou ce temps de tristesse que je traverse. Combien de fois on regarde le Seigneur tout simplement comme une bourse pour sortir des sous, une seringue pour sortir un médicament, une louche pour verser un peu plus de nourriture. Combien de fois on regarde le Seigneur davantage pour sa bénédiction que pour qui lui, il est réellement. Lorsque je n'atteste pas la présence de Dieu à mes côtés, je peux sombrer effectivement dans cette déroute et dans ce faux pas d'aimer davantage la bénédiction que celui qui donne la bénédiction. De chercher davantage la guérison que le médecin par excellence. Soyons honnêtes, on est tous passés par un tel moment. On est tous passés par de telles circonstances où nous ne sommes pas satisfaits de la simple et parfaite présence de Dieu à nos côtés. C'est comme, oui Seigneur, tu es là, mais si tu n'agis pas, ça ne sert à rien. Seigneur, tu es là, mais si tu ne réponds pas favorablement à ma demande et dans l'exactitude de ma demande, ben, ta présence ne sert à rien. On ne le dit pas avec de tels mots. On n'ose pas le dire avec de tels mots. Mais foncièrement, c'est l'attitude de notre cœur. Combien de fois on passe par un moment difficile financièrement et on dit, ouais, mais Seigneur, si tu m'aimais vraiment, tu aurais pourvu. Et Seigneur, si effectivement maintenant, parce que le pasteur nous dit que tu es là à nos côtés, alors quand est-ce que le chèque va arriver? Quand est-ce que la provision va arriver? Et ce faisant, sans l'admettre avec mes mots, je suis en train de confesser toutefois, avec mon attitude, que ce que j'aime chez mon Dieu, ce n'est pas qu'il soit là, mais c'est la provision qu'il peut éventuellement m'apporter. Aucun d'entre nous n'aime être pris pour acquis. Quand je me suis marié, j'ai dit à mon épouse, « Bébé, je peux cuisiner pour toi à tous les jours de ma vie. Par contre, ne prends pas pour acquise cette nourriture ou cette cuisine. À chaque fois que je prépare la nourriture pour toi, c'est un synonyme de « je t'aime ». Ce que je lui disais foncièrement, c'est « Florent n'aime pas être pris pour acquis. S'il te prépare de la nourriture, apprécie le geste, oui, mais apprécie-le à sa juste valeur. Qu'elle aime la cuisine, c'est une chose, mais je veux qu'elle apprécie le travail que le cuisinier a fait, l'attitude ou l'amour que le cuisinier a démontré. Pas « ben ça m'est dû » ou pas « si tu ne me donnes plus à manger, tu ne m'aimes plus ». Lorsqu'on regarde notre Seigneur, combien de fois on a eu cette attitude un peu puérile avec lui? Seigneur, si tu m'aimes, tu vas donc répondre. Seigneur, si tu m'aimes, tu vas donc agir. Seigneur, si tu m'aimes vraiment comme ta parole dit que tu m'aimes vraiment, alors par conséquent, tu te dois d'agir. Ce faisant, je suis en train de dire à ce Seigneur qui, oui, m'aime vraiment, ce que j'aime surtout chez toi, c'est quand tu allonges les billets, quand tu pourvois, quand tu donnes, quand tu agis, pas qui tu es, mais tout ce que tu fais. Est-ce que ce n'est pas malheureux comme relation avec Jésus? Est-ce que ce n'est pas malheureux d'avoir cette relation platonique avec Jésus comme un bébé, comme un enfant gâté qui dit « Seigneur, je crois à ton amour tant que tu me donnes. » Mais si à un moment donné, tu fermes le robinet, ben à ce moment-là, permets-moi de douter de ton amour. C'est ce que Marthe faisait là, critiquant Jésus de son absence, critiquant Jésus de son retard, et après ça, disant à Jésus, « Mais maintenant que tu es arrivé, fais donc ce que tu dois faire. Donne-moi ce que tu dois me donner. » Et assurément, nous devons tous prier pour la guérison de nos bien-aimés. Nous devons tous prier pour la bénédiction de nos bien-aimés. Mais en terminant chacune de nos prières avec cette recommandation que Jésus a donnée à ses disciples lorsque les disciples lui ont demandé d'apprendre à prier. « Seigneur, mais en toute chose, que ta volonté soit faite. » Et que ta volonté soit faite, ça veut dire, oui Seigneur, je te dis ce qui me plairait bien, mais si tu penses autre chose, si tu as une autre idée, alors Seigneur, je suis d'accord avec ta volonté. Ici, dans l'attitude de Marthe, il n'y a pas cette ouverture à ce que Jésus fasse autre chose que ce qu'elle lui demande. Seigneur, tu étais absent, tu es arrivé, maintenant fais ce que tu as à faire. La bénédiction est devenue plus importante que celui qui bénit. Jésus va lui dire, regarde, je suis la résurrection et la vie. Ton frère ressuscitera. Et elle lui dit, Seigneur, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Lorsque je ne reconnais pas la présence de Dieu à mes côtés, et ça c'est dans notre troisième point dans cette série, lorsque je ne reconnais pas la présence de Dieu autour de moi aujourd'hui, je viens avoir une espérance simplement pour demain. Éventuellement, peut-être Dieu sera ma solution. Elle dit, moi je veux la bénédiction aujourd'hui, mais en même temps, mon espérance est juste pour demain. Mon espérance est simplement pour l'au-delà. Mon ami, j'aimerais te dire, Dieu veut prendre soin de toi. Quand il prend soin de toi, ça ne répond peut-être pas toujours à tes critères et à ta définition de ce que représente la bénédiction. Mais s'il apaise ton cœur, s'il console ton cœur, s'il rend ton cœur léger, As-tu encore un problème? Je dis parfois que il est arrivé une phase dans ma vie où j'étais en intercession pendant des mois, voire quelques années, sur un sujet particulier. Un peu comme cette femme qui va s'approcher du juge inique en lui demandant quotidiennement « Fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice. » Et je m'approchais de Dieu en lui disant « Voilà, il y a telle situation, fais-moi justice, il y a telle situation, interviens, il y a telle situation, interviens, interviens, interviens. » Et cette situation était un poids lourd sur mes épaules. Je voulais que Dieu intervienne de façon spécifique, de façon tout à fait imposée par rapport à ma situation. Et Dieu n'est pas intervenu. En tout cas, pas de la manière que je lui demandais. Mais le fardeau qui venait avec la situation a disparu. Et j'explique aux gens en disant... Le point difficile d'un malheur, c'est pas le malheur par lui-même, mais c'est le fardeau, l'accablement qui vient avec le malheur. Mais lorsque ce malheur n'a plus de poids sur mes épaules, la situation est déjà réglée. Lorsque je peux continuer à avancer malgré la situation, parce qu'elle ne me fait plus mal, parce qu'elle ne m'inquiète plus, parce qu'elle ne me met plus en détresse, ben à ce moment-là, je suis déjà dans la paix et dans la bénédiction que Dieu peut seul accorder. J'ai revécu ou vécu de nouveau cette même expérience lorsque je suis tombé malade et que j'ai dit à Dieu, « Tout est correct, Seigneur. » Fais comme il te plaît. Et là, j'ai eu une attitude un peu plus songée, un peu plus mature. Je n'ai pas attendu des mois et des mois, j'ai attendu 12 heures. 12 heures où j'ai pleuré, où j'ai vidé mon cœur. Puis, j'ai eu cette simple prière en disant, « Seigneur, c'est correct. Fais ce que tu sais meilleur. Tu me gardes ici, tu m'envoies vers la maison, comme tu veux, Seigneur. » Pour moi, c'est correct. Pour moi, c'est OK. Fais comme il te plaît. Et à partir de ce moment, la paix est venue dans mon cœur. J'étais toujours malade. J'avais toujours les traitements à prendre. J'avais toujours la menace sur ma propre vie. Mais le fardeau qui pouvait venir avec la maladie n'était plus là. J'avais fait cette simple prière, Seigneur, entre moi et toi, je veux que ce soit très clair. C'est OK. Fais comme tu sais approprié. Fais comme il te plaît. Je te demande une seule chose. Prends soin de l'Église et prends soin de la famille. Et après cette prière, c'était correct. Ce qu'il allait faire était correct. Qu'il intervienne au niveau physique ou qu'il n'intervienne pas au niveau physique, c'était correct. Qu'est-ce que j'avais compris à ce moment-là? J'avais compris que Dieu ne voulait pas simplement intervenir dans l'éternité. Je n'avais pas simplement l'aspiration d'une intervention divine simplement lorsqu'on arrive là-haut. Je savais que ce que Dieu faisait aujourd'hui était approprié. Que ce que Dieu allait faire aujourd'hui dans ma vie était correct. Ce qu'il allait faire n'était peut-être pas une guérison. Ce qu'il allait faire n'était peut-être pas une disparition du cancer en un claquement de doigts. Ce qu'il allait faire n'était peut-être pas une délivrance physique spontanée, instantanée. Non. Et ça n'a pas été le cas. Mais ce qu'il a fait de façon spontanée et instantanée, c'est que sa présence a rempli ma vie. Sa présence a rempli mon cœur. Sa présence a rempli mon esprit et mes pensées. Et pas un moment pendant tout ce périple-là, je n'ai questionné où était Dieu. Pas un moment, je n'ai questionné jusqu'à quand, Seigneur. Pas un moment, je n'ai questionné sur la justesse de l'intervention de Dieu. Pourquoi? Parce que je sentais sa présence tellement intense dans ma vie que je n'avais aucun doute qu'il était là. J'avais dit, Seigneur, tu fais comme il te plaît et comme tu sais adéquat et parfait, je te fais confiance. Et il était au rendez-vous. Le danger de ne pas reconnaître la présence de Dieu autour de nous fait en sorte que l'espérance qu'on vient à avoir n'est plus sur la présence ponctuelle et environnante de Dieu, mais simplement une espèce de mythe qu'on nous a enseigné pour demain. La présence de Dieu peut être une réalité dans ta vie aujourd'hui. La présence de Dieu se veut une réalité dans ta vie aujourd'hui. Quand tu ne reconnais pas cette présence, tu es en train de dire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. C'est banal, c'est peu important. Un jour éventuellement, j'aurai ce que je veux. Et tu passes à côté de toutes les bénédictions et les riches conséquences de savoir que Jésus est vraiment présent ici. Lorsque David va dire, et on revient constamment à ce verset, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Il n'est pas en train de dire « Tu m'évites la vallée de l'ombre de la mort. » Il n'est pas en train de dire « Tu m'évites les sentiments qui viennent avec la vallée de l'ombre de la mort. » Il n'est pas en train de dire « Tu m'évites les désagréments qui accompagnent la vallée de l'ombre de la mort. » Il dit « Non, quand je traverse là, je ne crains aucun mal. Je suis calme et paisible parce que je sais que tu es là. » Imagine le nombre d'occasions où tu aurais pu être en paix, où tu aurais pu être dans la quiétude parfaite de l'âme et de l'esprit, si simplement tu avais pris le temps pour ramener tes pensées sur ce que dit la parole de Dieu. Jésus est vraiment ici. Alors de quoi aurais-je crainte? Si Dieu est avec moi, si Dieu est pour moi, que pourra me faire un homme? Si Dieu est avec moi, de qui aurais-je crainte? Si Dieu est effectivement à tes côtés, de quoi peux-tu avoir peur? Paul va pousser cela au paroxysme en disant, mort, où est ton aiguillon? Il dit, la mort, je suis en train de te regarder droit dans les yeux et tu ne me fais plus peur. Ta menace ne me fait plus peur. Et même si tu venais jusqu'à faire en sorte que je passe dans l'éternité, je n'ai même pas peur parce que la mort pour moi m'est un gain. Il sait la présence de son Seigneur à ses côtés et il est calme. Pourquoi? Parce qu'il sait que son Seigneur fait toutes choses parfaites. On peut ne pas comprendre la perfection de Dieu. On peut ne pas comprendre la perfection de l'action de Dieu. Mais quand on reconnaît sa présence à nos côtés, il y a une paix qui vient parce que mon esprit, mon âme sont obligés d'admettre que mon Dieu, qui est le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, il veille sur moi. Lorsque je doute de sa présence, lorsque je ne reconnais pas sa présence, alors oui, effectivement, je suis sujet à la crainte. Je suis sujet à la panique. Je suis sujet à la terreur. Et voilà pourquoi, quand quelqu'un sombre dans cette terreur, je lui rappelle, je tente de lui faire se souvenir que Christ a promis qu'il était à nos côtés. Mon frère, ma sœur, mon ami, je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui, mais je prie que tu puisses profiter de la bénédiction de Dieu aujourd'hui, pas simplement celle qu'il a promis pour l'éternité. Que tu puisses déjà commencer à profiter de la paix, de la grâce, de la quiétude, du repos pour ton âme aujourd'hui et non pas strictement dans l'éternité. David va dire à son âme, « Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. » C'est peut-être l'occasion pour toi et pour moi ce matin de rappeler à notre âme qu'elle doit se calmer parce que notre Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Roi, notre Dieu Tout-Puissant est à nos côtés en ce moment même. Alors merci Seigneur pour ta parole aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu veux faire pour nous. Demain, oui, mais encore plus, Seigneur. Nous confessons ta présence aujourd'hui. Et cette confession amène la paix, le calme dans nos pensées et dans notre âme. Seigneur, rappelle à ta fille que tu es là, maintenant même, dans cet instant présent. Rappelle à ton fils que tu es là, présent à ses côtés, même dans cette tempête qui s'est levée dans sa vie. Et parce que tu es là, nous disons à notre âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Parce que tu es là, nous rappelons à notre esprit, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Alors j'appelle la paix de Dieu dans vos pensées, j'appelle la paix de Dieu dans votre esprit aujourd'hui et qu'en toute chose, que cette présence soit manifeste autour de vous et en vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. Je viens de réaliser que mon micro est loin de moi. Aujourd'hui, j'espère que le son était bon. J'ai pas vu les gens s'en plaindre, en tout cas, j'ai pas remarqué. Donc, désolé, mon micro, au lieu d'être ici à quelques centimètres de moi, il est à un mètre et demi de moi. Je m'en excuse. J'espère que le son a été. Alors, on vous rappelle ce rendez-vous pour ce soir avec notre étude biblique. Je ne vous dis pas qui enseigne, vous avez la surprise quand vous vous connectez ou quand vous vous pointez à l'église le mercredi. Donc ce soir, étude biblique à partir de 19h. Ceux qui voudraient se joindre à nous en direct, en présentiel, vous savez que vous pouvez venir. La seule restriction, c'est de porter le masque, c'est tout. Donc c'est minime pour avoir la bénédiction d'être ensemble. Le mercredi, plusieurs en profitent, pas assez nombreux, mais plusieurs en profitent. On vous invite à faire de même. Alors sur ce, que Dieu vous bénisse. Quant à nous, on se retrouve demain matin à 8h30 pour notre prochaine bénédiction matinale. Bonne journée à vous. Au revoir tout le monde.